dès 1913, c'est ça que je veux amener là, nous avions un professeur, une femme spéciale, qui s'appelait Sœur Sainte-Anne-Marie, qui avait un charisme extraordinaire et beaucoup de leadership. Et dès que l'École normale a été fondée pour les filles, elle, à la maison-mère, avait dans sa tête de former une École normale supérieure. Une École normale qui préparerait des élèves après un diplôme de baccalauréat, de cours, on appelait ça le cours lettres sciences, qui avait suivi des cours dans les pensionnats. Puis elle voulait avoir une École normale plus spéciale à ce moment-là. Alors, elle a appelé ça le projet de l'École normale supérieure. Elle a ce projet-là, elle, dès 1913. Mais elle ne peut pas commencer ça tout de suite. Alors, dès 1917, elle organise des cours d'été pour les institutrices. Les institutrices dans les écoles n'étaient pas toutes venues à l'École normale. Il y en a qui venaient à l'École normale. Celles qui ne venaient pas à l'École normale passaient la loi on appelait ça les examinateurs, le bureau central des examinateurs. Ça, c'était le gouvernement qui avait, on a fondé au gouvernement, il n'y avait pas dans ce temps-là, il n'y avait pas de ministère d'éducation. Il y avait un surintendant de l'instruction publique et ils ont créé des bureaux d'examen. Et les jeunes filles qui voulaient enseigner dans les campagnes ou dans les écoles passaient les examens du bureau central. Qu'elles aient étudié n'importe où, si elles passaient l'examen, elles pouvaient être engagées dans les écoles de campagne après. Et pour ce qui est des religieuses, parce qu'il y avait des communautés rendues en 1900, il y avait d'autres communautés religieuses à part la congrégation. La plupart des écoles étaient tenues par des religieuses. Même dans les commissions scolaires, les enseignantes étaient des religieuses et des laïques. Les laïques, les jeunes filles, elles passaient les examens du bureau central si elles n'étaient pas allées à l'école normale. C'était le petit nombre qui allait dans les écoles normales. Bien, il fallait payer une petite pension de rien du tout, puis il y avait des bourses, mais quand même. Alors, celles qui finissaient, mettons, l'équivalent d'une septième année, ou qui étaient allées dans un pensionnat, si elles voulaient enseigner, elles se présentaient à ce qu'on appelait les examens du bureau central. Et là, elles recevaient un brevet de capacité. Mais c'était pas très avancé comme étude. Alors, Mère Sainte-Anne-Marie, et c'est la con qui travaillait, qui était, c'est la congrégation qu'elle représentait, a commencé tout de suite à vouloir donner plus de formation à ces jeunes institutrices et aussi aux religieuses, parce que les religieuses des différentes communautés n'étaient pas tenues, elles, aux examens du bureau central, parce qu'elles avaient fait un noviciat et que pendant les noviciats, on les formait à l'enseignement, comme nous, pendant notre noviciat, on nous enseignait comment enseigner, en plus de nous former à la vie religieuse. Mais on n'avait pas de brevet pour ça. On travaillait, on enseignait, et c'était comme ça un peu partout. Et dans les commissions scolaires, ils acceptaient des enseignantes religieuses sans qu'elles aient passé des examens. Dans ce temps-là, on se fiait à la bonne conscience des religieuses, si on leur confiait une classe, on supposait qu'elles avaient la formation voulue. Elles n'étaient pas obligées de passer des examens. Mais Mère Sainte-Anne-Marie a décidé que ça serait bon de les former, de leur donner de la culture et de les mettre au courant des événements qui allaient du développement qu'on avait dans le monde de l'éducation.